Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Avec moi aujourd'hui dans le studio, Dominique Vidal-Gazi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'actuelle présidente de l'ADES AD, oui. Il faut préciser, un organisme, sortir des initiales, hein, Association DIWAS d'entraide sociale aide à domicile, que nous avons eu quand même une fois ou deux, il me semble, sur cette antenne, et notamment dans le cadre de vos promotions, par exemple dans les événements Semaine Bleue ou au Forum des associations. C'est la première fois que nous vous avons à l'antenne, Dominique Vidal-Gazi. Vous êtes présidente depuis 2013. Est-ce que vous nous commenceriez bien par une petite présentation de cette association ?
Oui, on avait eu l'honneur de votre antenne à l'arrivée de notre nouvelle directrice l'année dernière et on avait été super accueillis, on avait été pas mal écoutés, on nous a beaucoup parlé de cette émission. Donc effectivement, ça fait un an et demi, ça va faire deux ans en juillet que je suis présidente de cette belle association. Je ne vais pas dire que je me suis retrouvée comme ça complètement de mon propre chef présidente, ça a été un peu... En fait, ce qui s'est passé, c'est que les délégués du personnel, en 2012, m'avaient demandé de participer à ce conseil d'administration. Et comme un certain nombre de gens sur le DIWA, je trouvais bien de soutenir cette activité qui me semble tout à fait indispensable à la vie du territoire. Et de fil en aiguille, l'année d'après, ils m'ont demandé de candidater à la coprésidence. Nous avions une directrice, une coprésidente, tout allait bien. Et je m'étais dit, oui, c'est un engagement, mais dans un espace limité. Et les choses n'ont pas été tout à fait comme je le pensais, parce qu'en fait, nous étions à l'époque, donc c'était en juillet 2013, nous étions au bord du gouffre et au bord du dépôt de bilan, pour être très clair, puisque la situation financière de l'association était vraiment très, très, très catastrophique.
Dû à quoi ?
On va revenir à quoi c'était dû, mais en tout cas, ce que ça a provoqué, c'est que ma coprésidente a démissionné, la directrice a démissionné, il y a eu des administrateurs à démissionner, et j'étais au milieu du guet et je me suis dit, je fais quoi ? Je reste, mais ce n'est pas un cadeau, ou je m'en vais aussi. Et c'est vrai que je n'ai pas eu le cœur de partir, parce qu'il y a 75 salariés, il y a 450 bénéficiaires, et que c'était compliqué de laisser tout comme ça au milieu du chemin. Donc j'ai fait la grande, grande imprudence de rester. J'ai assumé pendant 7 mois la direction toute seule, plus la présidence. Donc je ne vous dis pas, on sort de 18 mois qui ont été extrêmement difficiles et de beaucoup de travail. Mais on est content aujourd'hui puisqu'on est à l'équilibre et qu'on rétablit les comptes et qu'on peut espérer un avenir plus radieux. Alors vous disiez, c'était dû à quoi ? Je pense que les situations, quand elles sont aussi catastrophiques au niveau financier, elles sont souvent construites sur plusieurs années. Et c'est souvent une accumulation de choses qui n'ont pas été traitées. Alors il y a eu, et ça faut le reconnaître, un défilé de direction, etc. Et c'est une association qui est compliquée. On a, c'est beaucoup, 75 salariés d'aide à domicile, un métier difficile. Ce sont des métiers difficiles parce qu'il y a plusieurs métiers. Ce sont des métiers exigeants. Les gens travaillent seuls. Donc c'est vrai qu'on est tenté de donner à certaines périodes des avantages parce que c'est compliqué, parce qu'il y a les déplacements. Et ce faisant, il y a eu sûrement des périodes où on a très très mal géré, en particulier fin 2008 semble-t-il, où il y a eu d'un seul coup un creux financier qui s'est créé alors que c'était une association qui avait des réserves, c'est une association qui avait un fonds de roulement. Et depuis cette période, ça a été constamment... La course à l'échalote, c'est-à-dire essayer de combler les trous. Mais on ne comble pas les trous quand ce sont des trous de 80, 100, 150 000. Ça se règle pas comme ça. Donc c'est vrai qu'on a entamé un gros travail en 2014 grâce à la nouvelle directrice en particulier et avec l'aide d'un dispositif public d'accompagnement pour mettre tout à plat et essayer de comprendre d'où venaient ces évaporations d'argent. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui est compliqué à mettre en œuvre, parce que c'est pas facile, hein. C'est plus facile de donner et de dire je te donne une rallonge que de dire il y a des trucs qui vont pas, qui sont au-delà de la convention collective, parce que bien évidemment, on est dans un métier qui est régi par la convention collective, et c'est bien, et c'est nécessaire, parce que c'est des métiers qui demandent à être protégés. Et nous, nous sommes très souvent bien au-delà de la convention collective. Donc, cette partie qui va au-delà de la convention collective, si vous voulez, en termes de financement, n'a pas de contrepartie. Donc, si elle n'a pas de contrepartie, il faut trouver l'argent pour la financer.
Dominique Vidal-Gazi, vous avez mis les pieds dans le plat, toute seule, sans qu'on vous pousse. Effectivement, il y a eu, et ça traîne encore, un vent d'incompréhension, parfois de colère, de jalousie, ou tout simplement d'étonnement et de perte de confiance sur ce qu'a pu être l'ADES et vivre l'ADES ces derniers temps. Vous avez, comme toute personne qui prend la tête d'un organisme à un moment donné, été pointé comme étant une des causes. Évidemment, je vous remercie de nous faire cette explication. Cependant, eh bien, ce redressement passe par peut-être des compressions, par des concessions qui sont douloureuses sur le territoire. Et c'est pour ça, peut-être, qu'aujourd'hui, c'est un rôle... ouais, comme vous disiez, j'aurais peut-être pas dû y aller, quoi. Il faut l'assumer, c'est dur et c'est un peu la période où on nettoie. C'est pas forcément cool.
C'est plus facile d'être directeur quand les choses tournent, qu'il y a des sous et qu'il y a des cadeaux à faire, ça c'est clair. En même temps, là, très clairement, si on ne s'y était pas collé, il n'y aurait plus d'ADES aujourd'hui. Je ne regrette pas. Ce que je regrette, c'est la violence de certains propos, c'est la façon dont ceux-là même qui m'ont fait venir ou ceux-là même qui sont à l'origine de certaines difficultés m'ont pris, moi, un peu... comme punching ball sur lequel on pouvait taper allègrement, que ce soit sur la place du marché ou ailleurs. Et ça, je ne connais personne qui l'encaisse avec plaisir. J'ai encaissé, j'ai rien dit et j'ai dit ça passera. Mais ça ne veut pas dire que ce soit très agréable. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la poursuite de l'activité, en sachant quand même qu'on est dans une phase de tassement du nombre d'heures du fait du retrait d'un certain nombre de collectivités publiques dans les financements. Ça veut dire qu'on a eu une baisse de 5% en nombre d'heures. On a maintenu tous les emplois. Ça veut dire que notre masse salariale est restée à l'identique. On n'a pas licencié.
75 emplois. Hein,
on n'a pas licencié. On n'a pas compressé. Et on a gardé tous les salariés. J'aimerais bien que les gens qui parlent beaucoup sur la place le mercredi et le samedi se souviennent de ça. Parce que je pense que, quelle que soit l'activité qu'on peut avoir, moi, je suis quelqu'un d'engagé. J'étais engagée souvent. Je ne suis pas encartée, mais je suis engagée. Je pense que la priorité, c'est de préserver effectivement les emplois. Parce que la plupart de nos salariés, si elles sont licenciées, je ne sais pas très bien ce qu'elles font dans le DIWA.
Préserver les emplois, mais aussi, venons-en à ma question d'introduction, Dominique Vidal-Gazi, qu'est-ce que l'ADES? Vous apportez une aide à domicile à plus de 400 personnes, c'est donc ce qui justifie ces 75 emplois. Description un petit peu de votre activité.
L'ADES, c'est une association donc, qui a été créée en 65, qui était à l'initiative de personnes qui tournaient autour de la mairie, donc ça a été un peu une émanation de gens qui étaient engagés et qui avaient le souci... des anciens, de leur isolement, du fait que la télé n'avait pas la diffusion qu'elle a aujourd'hui. Donc les gens se retrouvaient isolés, éventuellement en montagne. Il y avait le problème des courses. Donc progressivement, il y a des gens d'abord bénévoles, puis assez vite salariés, qui se sont mobilisés pour rendre visite, pour accompagner, pour rendre service. Alors que ce soit faire le ménage, mais il y a aussi des services plus... comme la toilette, tout ce qu'il y a à faire dans une maison que progressivement, quand on devient très vieux, on ne peut plus faire, qu'on n'a plus la force de faire ou qu'on n'a plus l'envie de faire. Mais il y a toute une dimension aussi de ce métier qui est la relation et maintenir de la relation avec les gens qui sont seuls. Alors moi, j'ai le plaisir de temps en temps d'aller rendre visite à nos bénéficiaires et je dois dire que c'est quand même l'aspect le plus gratifiant de cette activité, parce que là, on voit vraiment pourquoi on est là et on voit vraiment ce que ça produit. Alors, il y a des gens qui sont encore en couple, hein, à 85, 89, 90 ans. Bon, et c'est quand même mieux parce que... Mais vous avez aussi des gens, beaucoup des femmes, qui sont totalement seules, totalement isolées et parfois dans une perte de toute activité, quoi, qui restent sur un fauteuil, qui regardent la télé et qui attendent que ça passe. Et donc, ça veut dire que les métiers, que ce soit l'aide à la vie, à la maison, que ce soit juste le ménage, il n'y a jamais juste du ménage. Quand il y a du ménage, il y a forcément tout un accompagnement autre et toute une discussion et toute une relation qui se noue.
Par exemple, si on devait faire un petit ratio de temps, on vient faire une prestation de ménage ou alors apporter un repas, voire même assister à ce qu'il se fasse correctement, ou une toilette, comme vous disiez. Ça prend une heure. Et puis on reste combien de temps finalement? Est-ce que vous savez combien de temps vos employés vont passer en fait en moyenne pour une personne?
J'aime bien comment vous parlez de la chose, parce que moi j'aimerais oui. bien que ce soit comme ça, qu'on puisse en parler. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de nos bénéficiaires sont des gens qui reçoivent une prestation du Conseil général qui s'appelle l'APA, l'allocation d'autonomie qui est versée aux personnes âgées. Cela signifie que c'est loin d'être en fonction des besoins le jour où on va, qu'on reste plus ou moins. Quand on a l'APA, ça veut dire qu'on a tant d'heures par mois, découpé par tant de semaines, découpé par tant de jours, et que peut-être, dans certains cas, on ne pourra aller, et tenez-vous bien, qu'une demi-heure pour une toilette dans certains endroits. Donc la grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de faire percevoir à tous les services, gestionnaires, en tout cas les services qui financent ce type d'activité. Nous, on ne reçoit pas des subventions. On est payé pour les prestations que l'on fait auprès des personnes âgées.
Voilà, par le biais de leur APA, justement.
Par le biais de leur APA. Mais ça veut dire que l'ADES, c'est une association, mais c'est une usine à gaz de 65 000 heures. Donc, comme un truc qui est découpé par petites tranches d'une heure ou d'une demi-heure. Et vous voyez bien que quand on demande à une intervenante de monter pour aller faire une toilette une demi-heure et revenir après, c'est très, très compliqué. C'est compliqué d'abord pour elle. Je pense que c'est compliqué pour la personne qui la reçoit. Et c'est compliqué aussi à gérer.
Puis en termes de déplacement, c'est nul.
C'est nul. Écologiquement, c'est assez nul. Alors,
ça coûte énormément.
Ça coûte énormément, et ça fait partie de nos ratios de gestion épouvantables à gérer. Mais on n'a pas le choix non plus de le faire ou de pas le faire, parce que si on se met à dépenser des kilomètres et des kilomètres, on ne peut plus faire nos heures.
Alors j'avais sorti ces heures-là pour qu'on essaie de trouver quelque chose de beau, à passer du temps avec nos personnes âgées. Non, c'est l'inverse, on vous impose des temps. Et donc vous n'êtes payé que pour ces temps-là. Ouais. Alors pour autant, vous allez en prendre en plus bénévolement. Chacun va donc passer un peu plus de temps que cette pauvre demi-heure. Ouais.
Alors ça, vous êtes sur nos axes de développement et nos axes stratégiques à venir, parce que là on a une étape importante qui est la fusion. On y reviendra probablement, la fusion avec une autre association. Et le programme que j'ai eu l'occasion de présenter la semaine dernière en Assemblée Générale, c'était de dire il faut impérativement qu'on arrive à refaire de l'animation, à mobiliser des bénévoles et à intervenir à côté de ce service tarifé que nous avons. Mais il faut réussir à faire aussi des choses qui vont peut-être demander plus de temps. C'est ce qu'on fait quand on rend visite, mais on avait des projets. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle encore projet, parce que projet, il va falloir déjà que ce soit un peu monté. Nous avions l'envie de monter des cafés mensuels. On a des personnes qui seraient ravies chaque mois de se rencontrer, de discuter. Il y a tout quelque chose autour de la conversation qui peut se renouer avec nos bénéficiaires et avec laquelle ils sont extrêmement heureux. Ça permet de revenir sur leur parcours, ça permet de parler parfois de la pluie et du beau temps ou de la chasse. La conversation, c'est un des éléments extrêmement fort et qu'il importerait probablement de renouer. Mais on pourrait aussi
jouer
aux cartes. Alors on a quelques aficionados de la belote qui sont
quelques, on en a quand même
pas mal. Donc il y a des choses comme ça. Pour ça, il faut qu'on retravaille avec des bénévoles. Si vous voulez, maintenant que la phase un peu de remise en selle budgétaire et financière va être faite, on peut se reconsacrer à ça. Moi, j'avais très envie, parce qu'une fois, je suis tombée sur une dame tout à fait loin, au-delà de... Non, pas Luc. Zut, je suis en train de chercher.
En tout cas, Châtillon.
Pleine montagne. Pleine montagne.
Val-Maravel.
Oui, c'était peut-être par là. Et une femme qui était géniale. Elle lisait un bouquin tous les 3-4 jours. Et je me disais, on aurait une petite valisette de livres à déposer, à reprendre et tout. Tout ça, les intervenantes, une fois qu'elles vont au domicile, elles peuvent avoir une petite valise de bouquins dans leur... Et une femme passionnée, mais c'était compliqué pour elle d'aller jusqu'à la bibliothèque. Parce qu'il y avait, je ne sais plus combien de kilomètres, évidemment, elle ne conduisait plus, etc.
Cette activité bénévole, donc, qui pourrait maintenant prendre tout son envol, vous le disiez, puisque, on va dire, il y a une sorte de tranquillité maintenant à faire tourner l'association, tranquillité. Je reste positif. Hein.
Oui.
Vous êtes venu aussi avec un très beau fascicule qui annonce les 50 ans de cette ADES. Vous nous avez dit, elle s'est créée en 1965, on est en 2015. Dans ce fascicule, il y a un certain nombre de personnalités qui ont traversé l'ADES. Alors, évidemment, je ne vous demande pas de nous faire le résumé de ce qui est dit. C'est très, très fourni, mais parlez-nous un petit peu de ces personnages qui ont marqué cette association pendant ces 50 ans.
Moi, j'étais très contente de faire ce petit travail. C'est pas moi qui ai fait les interviews, c'est une journaliste du DIWA, Catherine Desbordes. Mais en tout cas, j'étais contente de rencontrer à travers les interviews tous ces gens qui ont construit l'ADES. Parce que, bien évidemment, la façon dont moi je suis arrivée et tout ce qu'on a mis en place depuis, j'ai pas eu beaucoup de temps de rencontrer tous ces personnages de l'ADES. En dehors de Marc Tessier, que je connais, que j'ai sollicité et tout. Mais par exemple, Marcel Bognot, qui est un des fondateurs, hein, qui parle de l'élan de solidarité qui est à l'origine de cette association. Il vient de temps en temps à notre conseil d'administration. Il est membre d'honneur et de temps en temps, il vient. Et on a rarement eu l'occasion de repartir sur cette période d'il y a 40 ou 50 ans. C'est une façon de le redécouvrir et de faire sa rencontre autrement. Et il y a une femme qui a été... Alors, tout le monde en parle, c'est Madame Sanchez, Marie-Claude Sanchez, qui n'était ni directrice ni présidente, semble-t-il, à cette période, dans les années 75, hein, et assez longtemps, puisqu'elle est restée de nombreuses années, et qui a fait fonctionner, on parle de femme orchestre, elle faisait vraiment tourner par son énergie, elle a fait tourner complètement cette association, parce que je pense qu'elle avait très envie que ça marche, elle devait être attachée à la fois aux bénéficiaires et à la fois aux salariés.
On lit 25 ans d'ADES pour cette femme. Hein,
oui,
voilà.
Mais 25 ans d'une forte implication, et c'est vrai que... Nous avons un certain nombre de salariés. Là, on a fêté les 30 ans d'une de Patricia Estelle. C'est des gens qui se souviennent de Marie-Claude Sanchez. Donc, vous voyez, elle est partie il y a une quinzaine d'années. Mais son passage, c'est probablement à la fois son énergie et probablement aussi ce qu'elle a réussi à développer, à maintenir et à faire tourner bien. Elle est restée longtemps et elle a fait un gros, gros travail à l'ADES. Alors, Monsieur Guyot, pareil, il a été à la période, c'est un Odiwak, moi je le croise de temps en temps sur le marché, je l'ai croisé la semaine dernière. Gros boulot à l'époque de mise en place de l'informatique. Parce que ce que je vous disais sur les 65 000 heures multipliées par 75 et multipliées par 424, vous voyez bien
bonjour
que ça marche.
Bonjour le tableur.
Ça marche forcément par une grosse, grosse bécane informatique. Et je dirais même qu'aujourd'hui, cette assos, pour comprendre comment elle fonctionne, il faut avoir la main et il faut pouvoir rentrer dans le système. C'est un peu comme un récit de science-fiction. Tant qu'on ne peut pas rentrer dans le système, on ne tient strictement rien. Moi, les 7 mois où j'ai fait la direction toute seule, je ne rentrais pas dans le biniou parce que je n'en avais pas les compétences, pas du tout. Et on a pu vraiment accéder à ce qui n'allait pas ou ce qui était une source de dépenses indues. Que quand on a pu vraiment regarder avec la directrice l'outil informatique. Ce qui est assez terrible, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que dans certains lieux, la maîtrise de cet outil donne sacrément du pouvoir à quelques personnes. Quoi.
Ah.
Voilà. donc, dans les autres personnages qui sont tout à fait intéressants sur la vie de l'ADES, il y a une femme que j'ai rencontrée il y a quelques temps, qu'on appelle entre nous Tata Roberte, c'est Roberte Deverne, qui a fêté ses 90 ans il y a 3 mois. Alors, elle a été bénévole, engagée dans le conseil d'administration. Je pense que ça a été un engagement pour elle extrêmement significatif dans son insertion dans le DIWA. Après qu'elle ait eu une longue expérience, elle a été salariée de la caisse d'allocations familiales au niveau national. Et elle a beaucoup travaillé dans les pays du Maghreb, auprès des populations. Et c'est quelqu'un qui a eu un engagement et qui parle de l'ADES. Alors aujourd'hui, elle dit « j'ai changé, je suis de l'autre côté ». Ça veut dire qu'elle est aujourd'hui bénéficiaire. C'est quelqu'un qui parle de l'ADES avec beaucoup d'enthousiasme.
C'est cette personne dont vous m'avez parlé hors antenne, qu'elle maîtrisait parfaitement l'arabe.
Oui, tout à fait. Tout
et
à
que
fait.
Donc, elle avait pu faire un lien plus que nécessaire, plonger l'ADES, y compris auprès des populations issues d'immigration.
Oui, oui, oui. Et c'est une personne, quand vous la rencontrez, elle ne vous laisse pas indifférent. Donc, il y a une grande période aussi avec Bernard Guilbault, que beaucoup connaissent sur Die. Hein, alors, il y a quelque chose d'épouvantable quand vous rencontrez les présidents en particulier, c'est qu'on a l'impression que tout le monde a quitté l'ADES en étant extrêmement malade. Alors, de temps en temps, je me dis, il va falloir partir avant, parce que je pense que c'est une association qui a épuisé tellement de monde à certaines périodes qu'à chaque fois, les gens sont partis très, très, très épuisés, notamment ceux qui étaient en responsabilité. Et ça a été le cas de Bernard Guilbault, qui, quand il est parti, était bien malade. Aujourd'hui, il va bien. Il a fait aussi un énorme travail de rénovation. C'est lui qui a mis en place la mutuelle pour les salariés. C'est lui qui a mis en place la convention collective et les conditions de la convention collective. Et c'est à la fin de son mandat qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un gros trou.
Voilà.
Et qu'il n'a pas bien compris à ce moment-là, parce que le boulot du président n'est pas forcément d'être aux manettes des comptes notamment. Hein. Il a beaucoup à faire et lui faisait beaucoup, en particulier avec notre fédération nationale qui s'appelle l'UNA, qui est chargée de faire du lobbying, comme on dit aujourd'hui, auprès du ministère et auprès de toutes les instances pour obtenir notamment des évolutions de la loi en matière de protection des personnes dépendantes.
Et puis enfin, Marc Tessier,
qui clôture,
voilà, bien sûr, on le connaît, qui est président des Amis des Arts et du Musée, à l'heure actuelle, très actif sur l'action culturelle d'Iwaze. Alors pourquoi est-il ici ?
Marc, il était en fait dans le conseil d'administration avec Bernard Guilbault quand Bernard Guilbault a dû s'arrêter. Et ensuite, il est devenu co-président sur une période assez brève. Et il s'est retrouvé, un peu comme moi, président. Il a assumé aussi des fonctions de direction à un moment donné, en 2009. Et en 2009, il a été à la pêche aux subventions à cette époque-là pour essayer de redresser la barre qui était déjà très inquiétante. Donc ça, il a eu 2 années extrêmement lourdes au niveau de son emploi du temps et il m'a donné un coup de main quand je suis arrivée et très vite, il m'a dit « Houhou, je ne veux pas y remettre les pieds parce que je sens bien comment ça me fatigue. » Mais il a permis que ça se maintienne. Après, il avait demandé à ses 2 coprésidentes, mesdames Grangeron et Daubeuf, de prendre la coprésidence sur l'année qui a suivi et parce qu'ils avaient aussi recruté une direction à l'époque. Mais il y a eu une rotation des directions qui a été très, très, très néfaste pour le fonctionnement de l'association, pour son image et pour sa gouvernance, et pour sa solidité, c'est clair.
Toutes ces personnalités donc, que vous retrouverez très probablement dans ce fascicule 50 ans de l'ADES AD, personnalités fortes, en tout cas qui ont mené comme ça cette association avec beaucoup d'allant, ce que vous faites aussi Dominique Vidal-Gazy à l'heure actuelle. Alors j'ai bien entendu qu'il ne fallait pas que vous vous épuisiez, vous avez réussi à prendre des vacances après ces 18 mois surintenses. Comment on fait pour se calmer, pas tomber malade quoi.
Ne pas tomber malade, 2013 c'est bien parce que j'avais prévu des là pendant l'été que j'ai pu m'y investir comme ça parce que je travaille encore quand même, je fais pas partie des gens qui sont déjà à la retraite, donc aussi il faut que je travaille pour vivre, pour tous les jours. Donc non, aujourd'hui avec à nouveau une direction on peut moins s'épuiser. Là on est dans une période où il y a beaucoup de travail parce qu'on est en train de travailler sur la fusion avec l'association de Oust. C'est un gros travail de. Ça fait plus d'un an qu'on y travaille, un an et demi. C'est un gros travail d'élaboration, c'est un gros travail de négociation avec tout le monde.
C'est-à-dire que donc vous allez avoir une gestion commune, augmenter vos nombres de bénéficiaires peut-être par deux, je ne sais pas, et le nombre de salariés également.
Ah, c'est une fusion, une vraie fusion. Ça, ah veut, oui, dire fusion, que, donc, ça veut dire que de deux associations, on ne fait plus qu'une. Et que nous parlons de l'ADES aujourd'hui, et les collègues d'OUS appellent Association d'aide à domicile d'OUS. Et nous aurons un nouveau nom au 1er juillet. Donc on aura une belle grande association qui aura pas loin, assez vite, c'est ce qu'on espère, pas loin de 100 salariés. Et assez vite aussi, on espère, pas loin de 100 000 heures d'activité. Donc c'est un vrai pari et c'est pour ça que c'est un gros travail.
Et le nombre de bénéficiaires, du coup, lui, va passer de combien à combien là,
le nombre.
Parce que vous
de...
parlez en heure. Hein,
ouais, ben oui, on parle en heure pour l'instant parce qu'on est sous l'angle de du pilotage. Je ne le sais pas. Je pense que c'est une centaine. Alors, eux, ils sont sur un secteur qui est plus difficile parce qu'il y a un secteur avec, je veux dire, de la concurrence parce qu'il y a des privés aujourd'hui qui se mettent sur l'aide à domicile. Nous, on est sur un secteur plus protégé, mais on sait qu'il faut amorcer à nouveau un développement vers des services plus diversifiés, l'accueil, la prise en charge d'enfants au domicile, éventuellement du petit bricolage, pas du bricolage de...
Oui, surtout pas prendre le travail des artisans, mais...
Mais le poser une étagère chez quelqu'un qui n'arrive plus à le faire, par exemple. Et donc, ça veut dire aussi diversifier peut-être même nos interventions auprès de gens plus jeunes. Plus on interviendra auprès de gens dès 60 ou 70 ans, plus ça donnera une stabilité à l'ADES. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement général est à une concentration des associations pour faire des économies d'échelle, comme on dit, c'est-à-dire avoir des frais administratifs moins élevés. Ce qui est important, c'est de réussir à préserver le caractère humain, individuel, la qualité de ce travail, malgré le fait qu'on va grandir encore un peu. Mais c'est, en soi, c'est bien et ça veut dire qu'on va être vraiment une association qui va faire toute la vallée de la Drôme et tout le grand canton de Die, puisqu'on correspond exactement juste au grand canton d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à Rémusat, voilà, La Motte, donc on va loin.
Avec donc Saillant et petit bonus autour de Oust en plus.
Tout à fait. Mmh. Et avec un travail avec les collectivités territoriales sur lequel ils ont beaucoup avancé à Oust. Non, c'est intéressant, mais si vous voulez une fusion, il faut tout harmoniser, notamment au niveau salarial, mais aussi pour les bénéficiaires. Donc ça nécessite de tout mettre à plat et de faire la même chose pour tout le monde.
Voilà, vous n'étiez même pas au même niveau entre associations, évidemment. On peut imaginer, bien sûr, si vous étiez à 400 bénéficiaires contre 100, forcément, on n'est pas non plus dans les mêmes ratios de gestion. Enfin, on imagine effectivement tous les problèmes que ça peut... Mmh. On ne va pas trop rentrer dans les détails.
Non, c'est très technique, mais en même temps, les salariés avaient des avantages dans une association et pas dans l'autre. Il y avait des... Donc tout ça, on est en train de tout mettre les compteurs à zéro. On dénoncera tous les compteurs au 30 juin et au 1er juillet, il y aurait des nouveaux compteurs pour tout le monde. Donc, vous imaginez que l'ADES, avec la diversité qu'elle a et avec les instances qu'elle a, c'est une partie qui me demande encore à être jouée complètement jusqu'à la fin du mois de juin.
C'est vrai. Et encore beaucoup de plaisir et de consensus à produire. L'ADES AD, nous en parlons aujourd'hui et surtout car vous fêtez ses 50 ans. Alors, vous avez fait une paella ces derniers temps, une paella géante. Est-ce que vous allez faire d'autres événements tout au long de cette année 2015 pour marquer ces 50 ans ?
On espère faire d'autres événements. Là, on a refait une paella parce que l'année dernière, on avait fait pour la première fois une grande paella qui avait supermarché. On s'était retrouvés à 100. Là, c'est du même ordre. On a des musiciens amis qui viennent, etc. Et on voit bien que ça fait énormément plaisir à nos bénéficiaires de se retrouver, de rencontrer les salariés. Et puis à chaque fois, ça va être de nouvelles personnes qui viennent. Donc, on aurait tout intérêt à multiplier ce genre de choses.
Mais il y a un effet de communication, c'est ça que vous voulez dire ?
Bien sûr, il y a un effet de communication, il y a un effet de groupe. C'est-à-dire que, si vous voulez, les salariés de l'ADES, elles viennent au bureau, elles viennent boire un café. Mais dès qu'elles sont un peu éloignées, c'est compliqué qu'elles viennent jusqu'à 10. Donc, c'est dans des occasions comme ça qu'elles peuvent rencontrer leurs collègues et qu'elles peuvent échanger et se retrouver. Et il y a un côté extrêmement sympa. Mmh. Parce qu'on a vraiment des salariés qui travaillent là depuis 30 ans. Et qui se connaissent. Enfin, on a un noyau d'anciennes. Elles sont... c'est tout à fait... c'est un des côtés extrêmement sympathiques de la vie de l'ADES, ça. Donc, les paellas, c'est destiné à ça. Mais on arriverait à faire des événements pour des gens... un peu plus jeune, par exemple, quelques marches. On avait envisagé de faire quelques balades avec des anciens parce que c'était une activité quand même extrêmement forte pour eux. Il y a 30 ou 40 ans, on marchait encore plus qu'aujourd'hui. Hein, même
quand on va dans nos petits villages, on les voit marcher encore.
Oui,
hein.
Tout à fait. Mais si vous saviez, la marche, c'est quand même un des meilleurs moyens qu'ont les gens de rester chez eux. Le jour où ils ne marchent plus, ils ne pourront plus rester chez eux parce qu'ils vont rentrer dans une spirale où ça va être très compliqué. Donc, nous, dans le travail quotidien qu'on fait auprès des anciens, on insiste beaucoup sur le fait de marcher et les salariés les accompagnent à marcher. Vous voyez bien Dandy, ces dames qui tiennent le bras, etc. Ça fait partie des choses essentielles à préserver. Et puis, c'est quand même le plaisir aussi... de la vie que de pouvoir un peu aller faire son petit tour, quoi.
Ouais, bah oui.
Donc, on ferait des petites animations avec des balades, ce serait bien. Mais il faut qu'on ait... les questions financières, on n'est pas tranquille, on est encore dans... Il faut continuer à tenir le cap. Il ne faut plus que ça nous prenne toute notre énergie et il faut qu'on arrive à faire aussi autre chose. En premier lieu, pour nous, parce que c'est plus rigolo d'aller se promener ou c'est plus rigolo de faire une paella que de compulser des tableaux de chiffres ou d'aller à des stages de chiffres à longueur de journée comme on s'est fait depuis 2 ans.
Donc le grand programme de l'ADES, AD, ces prochains, avec Fusion en même temps, hein, ces prochains mois, c'est de réactiver la partie bénévole de l'association. Vous êtes donc en appel, venez donc évidemment suivez un petit peu ce que produit l'ADES, que ce soit des paellas ou autres animations, pour bien venir rencontrer un peu les gens qui font vivre cette association. Si vous avez aussi l'envie de vous engager comme ça, comment on fait, on vient, on...
Ouais, c'est assez simple, on est ouvert voilà. Tous les jours, on est sous la salle polyvalente, dans un local qui est un peu excentré maintenant. On était les voisins de Radio Diwa avant.
Il y a un problème, il faudrait qu'ils mettent un peu d'argent dans le bâtiment. Quoi.
On aimerait bien être plus vers le centre, ne serait-ce que pour les bénéficiaires. En tout cas, on est facile à trouver là-bas. Mais sachez bien, on reviendra vous voir dès qu'on va avoir le nom de notre association. Parce que ce nom, il est travaillé aujourd'hui avec l'ensemble des salariés. Donc on ne sait pas ce qui va sortir du chapeau. On ne sait pas le nom qu'on va avoir. On va sûrement avoir un nom... autour de la vallée de la Drôme, mais on ne le connaît pas à partir du 1er juillet, donc il va falloir déjà le faire connaître à tout le monde, ce qui ne va pas être une mince affaire, parce qu'une association qui a 50 ans, tout le monde sait ce que c'est que l'ADES. Moi, au début, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le DIWA, l'ADES, ça ne me disait rien du tout. Mais les gens qui étaient là il y a 50 ans, ils savent ce que c'est que l'ADES.
Et ouais, c'est fou.
Donc, l'enjeu du changement de nom, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose d'important.
Donc, et pour être bénévole alors à l'ADES, puisque c'est un petit peu votre leitmotiv là maintenant, c'est d'essayer de développer comme ça des activités annexes et du temps avec ces personnes âgées, ça passe par l'activité bénévole. Mmh. Comment devient-on bénévole à l'ADES? Alors, on passe vous voir dans le local, on adhère, combien c'est
Alors, on adhère, oui.
Que peut-on proposer
le principe, c'est déjà d'être au clair sur les valeurs qu'on a.
Ah,
et ouais. De ne pas... C'est un des...
C'est rapide à décrire les valeurs. Si c'est les pas valeurs, trop long, on peut le dire.
Les valeurs, c'est ce que chacun de nous a dans sa tête depuis fort longtemps et généralement depuis la toute petite enfance, parce qu'on a un premier stade de nos valeurs qui est créé très très tôt dans notre histoire. Et c'est ce qui fait qu'on agit d'une certaine façon. C'est ce qui est à l'origine de nos actions et ce qui génère certains types d'actions. Et ça veut dire que quand on va, je vais vous prendre un exemple extrêmement trivial, bêta. Quand on va être dans une association comme l'ADES, oui, on a certaines valeurs, on a un certain rapport à l'autre, on a un certain rapport à la vieillesse, au handicap, à la vie, à la mort, il y a beaucoup de choses. Par exemple, vous parliez de notre fête sur la paella. On a eu un débat extrêmement, alors qu'on peut regarder avec beaucoup d'humour et qui est très anecdotique, sur le fait de dire il faut acheter des petits fours. Vous allez me dire, c'est une question complètement bateau. on organise une fête, il faut aller acheter des petits fours. Il faut dégager 500 euros pour des petits fours. Et non, dans une association comme l'ADES, avec les soucis d'argent que nous avons eus depuis un certain nombre d'années, parce que ça fait 10 ans que c'est cette situation, eh ben non, quand on a 500 euros, on ne les met pas dans les petits fours, même pour nos invités. Par contre, on va demander aux intervenantes, aux bénévoles, de faire des gâteaux, de faire des trucs qui vont être beaucoup plus sympas, parfois meilleurs d'ailleurs, et on les offrira avec beaucoup de bonheur à nos invités.
Ah, voilà l'activité bénévole.
Mais ça, c'est une question de valeur.
Ouais.
C'est-à-dire que derrière quelque chose d'aussi anecdotique que ça, ce sont des valeurs. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la question des soucis qu'on avait eus et des difficultés à se faire comprendre un peu qu'on avait eu l'été dernier. Je pense que c'est... Ça aussi, c'est des questions de valeur qui vont intervenir tout le temps. Et le conseil d'administration à l'époque a été extrêmement soudé et probablement a travaillé différemment dans cette phase-là parce qu'il a été amené à expliciter, à dire pourquoi on faisait les choses de telle et telle façon. Donc, il y a des épisodes qui sont difficiles, mais finalement, ils produisent aussi de la solidarité, de la compréhension et plein de choses.
Et consolide aussi, je pense, toutes les valeurs
ouais.
dont vous parlez.
Oui,
voilà.
ouais. Quand on a envie d'être bénévole, c'est vrai qu'on vient, mais si vous voulez aller voir certaines personnes, ça nécessite d'être très, très au clair. Il y a des gens qui sont dans des situations très difficiles. Donc, il ne faut pas y aller pour se soigner soi-même, ce qui est toujours la grande difficulté dans le social. C'est tous les gens qui s'engagent pour se soigner eux-mêmes. Il faut y aller par rapport à quelque chose qu'on a à faire et qui doit être clair pour soi. Et donc, les bénévoles, on les reçoit. Généralement, on les voit au conseil d'administration. On les intègre plus ou moins au conseil d'administration s'ils en émettent l'envie. Et ensuite, ce travail de visite ou ce travail à faire avec nos bénéficiaires, il sera forcément accompagné avec un système de tutorat pour pouvoir être sûr qu'on ne fait pas pire que de ne rien faire.
L'association est aidée par des professionnels de ce genre de métier. Hein. Moi-même, les gens le savent, hein. À RDOA, j'ai été éducateur spécialisé.
Oui, c'est ce que j'entendais un peu.
On a des séances de supervision.
Ouais.
Par exemple, la supervision, alors on va expliquer aux auditeurs, c'est une démarche psychologique en groupe, voire individuelle, pour pouvoir un petit peu délayer des situations qu'on vit et effectivement éviter de tomber le plus que possible dans la situation d'aller aider l'autre pour se céder soi.
Oui, ça, c'est souvent pratiqué par des gens qui ont fait des études de psychologie. C'est très, très important. Alors, nos salariés ont eu, là immédiatement, non, mais normalement à partir de la rentrée, j'espère qu'on y arrivera, des groupes qu'on appelle d'analyse de la pratique.
Ah oui, voilà.
Et
oui,
c'est une vision en miroir de ce qu'on a fait. Et l'idée, c'est de mettre ces expériences dans le groupe et de voir comment, d'avoir un éclairage par les autres d'une situation qu'on a vécue. Et finalement, ça questionne sur ce qu'on a fait et comment on a résolu la chose. Ça questionne du fait de l'apport des autres. Mais celui qui anime n'est pas en position de sachant. Il est en position de favoriser les échanges et de faire que les gens aillent aussi loin de ce qu'ils peuvent exprimer des situations.
Donc non, mais vous avez raison, la supervision, ça a 10 ans. Hein, maintenant, on fait de l'analyse de la pratique. Voilà, c'est beaucoup plus doux. Non, mais il faut le dire.
Mais ça veut dire que ça peut être fait par pas par les mêmes professionnels,
tout
surtout.
Tout à fait, évidemment.
Mais c'est extrêmement important de le faire. Sauf que, petit détail, vous avez raison, chez les éducs, c'est considéré comme formation. Ça fait partie des heures de travail.
Et oui.
Chez nous, dans l'aide à domicile,
ah.
Ce n'est même pas reconnu comme formation. Ça veut dire qu'il faut que nous trouvions des financements en plus pour financer ces groupes d'analyse de pratique. Alors que c'est essentiel, parce qu'il y a des fois, il y a des situations extrêmement compliquées à vivre. Je veux dire, quand on suit une personne pendant des années, que cette personne va décéder ou que cette personne va partir à l'hôpital. Oui, il faut être aidé, il faut être accompagné à ces moments-là. Mais aussi, peut-être, dans des choses... on a plein de gens extrêmement charmants, on en a quelques-uns extrêmement désagréables.
On a
parfois des incidents, on a quand même eu des tentatives de viol. Enfin, c'est peut-être, ça se dit pas, mais c'est.
Pas
même...
ou de l'attouchement, des choses, des situations.
Non. Les mots ont un sens.
Très bien.
Mais nous avons des bénéficiaires de tous âges. Nous avons une majorité de gens âgés, de gens de grand âge, mais nous avons aussi des gens. Soit qui ont été malades, soit qui sont en position passagèrement difficile, etc. Donc, nous avons des bénéficiaires de tous âges. Mmh. Et ça, ce n'est pas facile à accompagner non plus. Hein. Accompagner la salariée à qui c'est arrivé, c'était un moment difficile. Bon, mais ça fait partie des situations qu'on a. On est dans des métiers où elle travaille isolée. Et le fait de travailler isolée a énormément de conséquences. Ça... Il n'y a pas la création d'un collectif comme on a dans un centre, dans un IME. Les éducateurs travaillent ensemble et ils ont des moments où ils se retrouvent. Alors nous faisons ce qu'on appelle des réunions de secteur. On fait une fois par mois, mais ce n'est pas du tout la même création du collectif. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup aux salariés, d'où le souci de faire des moments de convivialité, des moments comme la paella.
Et que les bénévoles, on le redira comme ça, hein, s'inscrivent dans ces possibilités d'aller soutenir, pourquoi pas des salariés, participer à des rencontres d'analyse de la pratique, probablement.
Si nous les formons.
Et puis du coup, être ce soutien, ce retour.
Oui, parce que c'est la même chose. En fait, aujourd'hui...
Mais au moins, tout le monde est prévenu. Hein.
Tout le monde est prévenu, mais les bénévoles aussi, ça doit être formé. Parce que on ne naît pas comme ça d'un seul coup et on ne sait pas tout de suite ce qu'il faut faire par rapport à des situations qui sont quand même humainement très compliquées. Mais en même temps, c'est ça notre humanité, c'est ces situations-là.
C'est ça, l'aide à la personne, l'aide à domicile. Nous parlons de l'ADES-AD avec vous, Dominique Vidal-Gazi, sur RDIWA, toujours. Alors, on arrive bientôt au terme de cet entretien. On a dit que vous étiez donc sur le chemin de Fongiraud, en dessous de la salle polyvalente, en vous espérant effectivement un meilleur lieu un jour, hein, peut-être. Est-ce qu'on pourrait terminer par quelques éléments de communication? Et surtout, je vous laisse choisir même ce que nous n'aurions peut-être pas évoqué, qu'il faudrait dire maintenant.
Alors déjà, je peux vous donner le téléphone. Ça, c'est le 04 75 22 07 44. Et le mail, c'est ades-di@wanadoo.fr. Le plus simple, c'est de passer. Hein. On est ouvert de 8h30 à 5h, 6h, 7h, 8h souvent. Donc, généralement, quand quelqu'un passe, on est là et on boit un café. Alors, les éléments que nous n'aurions pas abordés, si, c'est un élément de coopération avec les différentes instances des collectivités territoriales, peut-être, puisque nous avons eu des élections il n'y a pas longtemps. Et qu'on a eu le plaisir de recevoir Bernard Buis et Mme Charmet à notre Assemblée Générale, ce qui nous a fait chaud au cœur, parce que recevoir des encouragements, c'est toujours... oui, ça fait du bien. C'était quasiment la première fois qu'on en recevait depuis 2 ans. Donc, c'était sympathique. On a reçu aussi M. Feuilleten, qui représentait la mairie de Die et l'intercommunauté. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a... je ne sais pas comment le dire, mais réinsérer l'ADES dans un tissu de responsabilité. On remplit un vrai service public vis-à-vis de nos aînés. Moi, en 2014, c'est vrai que j'ai fait vraiment le choix de ne pas retourner quémander des subventions. Et dire, tant qu'on n'a pas fait le ménage chez nous, on ne peut pas redemander des sous dehors. Maintenant, on est au clair sur à peu près les différentes composantes de l'ADES. Et là, c'est à chacun de voir comment on va coopérer tous ensemble. Mmh. Je ne sais pas si on peut parler de partenariat, mais en tout cas, ça demande à être inséré. Je pense que la politique en faveur des jeunes, c'est important. La politique en faveur du sport, c'est important. C'est bien aussi qu'on pense à toutes ces personnes qui sont quand même notre avenir à nous aussi. Alors je pense qu'on a tous une hésitation à penser à ce devenir. Et peut-être que cet évitement, il est hautement symbolique. Mais je pense que c'est quand même...
On va tous devenir vieux quand même.
Il y a des chances, ou alors si on ne le devient pas, c'est qu'il nous est arrivé quelque chose avant. Ça fait partie de la qualité de la vie, ça fait partie des engagements et c'est une partie... Moi, je trouve qu'une société, elle se lie à la capacité qu'elle a à voir les personnes en situation de faiblesse, qu'elles soient handicapées ou qu'elles soient âgées ou qu'elles soient malades. Et quand on ne les voit plus, c'est qu'il y a vraiment plein de trucs qu'on ne voit plus.
Et vous avez cité justement des élus qui, pour l'instant, vous encouragent, c'est sûr. La communauté de communes, évidemment, j'espère, puisqu'elle elle a la compétence, hein, il paraît, de gérer un petit peu les établissements, en tout cas, qui accueillent aujourd'hui des personnes âgées. Il y a aussi tout un travail, sans doute, que vous allez faire, que vous avez fait ou qui est en cours avec la relation avec toutes ces associations. Ici, on en a plusieurs, nous on les a rencontrés justement au Martouret dans le cadre de la Semaine Bleue. C'était en septembre-octobre.
Octobre,
voilà,
oui.
Avec qui vous allez être forcément en lien, justement pour toutes ces diversités que l'on pourrait apporter à ce pôle qu'est les personnes âgées, et puis le CLIC.
Mais nous y étions, au Martouret.
Bien sûr, et vous y étiez.
Donc, on va à toutes les réunions du CLIC.
C'est ça. Je voulais citer
y en a
le
beaucoup.
CLIC, justement.
Après, c'est pas ce qui est compliqué, si vous voulez, sur les personnes âgées, c'est que c'est de la responsabilité des conseils généraux, jusqu'à présent, des conseils départementaux. Mais compte tenu du fait qu'il y a une partie qui n'est pas financée, c'est sûr que ça concerne aussi les mairies. Mais aujourd'hui, avec l'intercommunalité, ça nécessite de clarifier ce que les mairies vont prendre, ce que l'intercommunalité va prendre. Et ça, ce n'est pas encore complètement clair. Enfin, ça demande à être discuté. C'est très important parce que finalement, moi, j'étais au congrès de l'UNA la semaine dernière à Tours. Il y a des gens, des régions, où ils disent bah, quand les gens sont loin, éloignés, soit on n'y va plus, soit on les fait payer plus cher. Nous, on a maintenu cette idée qu'il y a une égalité de traitement de tous les anciens sur le territoire, mais c'est l'ADES qui l'assume aujourd'hui. Donc c'est là-dessus qu'il faut probablement qu'on discute, mais on a de très bons échanges avec l'équipe de la mairie, avec l'intercommunalité et tout. Donc, ça va se faire. C'est dans les tuyaux.
Dominique Vidal-Gazi, présidente depuis 2013 de cette ADES-AD, où nous avons consacré presque une heure sur ces, en plus, 50 ans. Vous allez changer de nom, alors bon vent avec ce nouveau nom. Bon vent pour cette année 2015. À la très prochaine pour la suite. Et merci d'être passé chez nous.
Merci de votre temps et 50 ans, c'est un bel âge.
Interview.
Ok.
L'interview du jour.